Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Quantité diminuée, promos indisponibles en rayon, format familial plus cher. Dans les supermarchés, il y a des promos et des arnaques à chaque rayon. Alors comment éviter les pièges de ces promos bidons? Réponse dans un instant avec Lionel Mauguin de 60 millions de consommateurs. Des vents contraires soufflent sur l'énergie éolienne pourtant 100% naturelle, renouvelable et durable. Dangereuse pour la santé, inesthétique, grande tueuse d'oiseaux, les éoliennes sont-elles vraiment utiles et vertueuses en matière de respect et d'environnement? On fait le point dans un instant avec Virginie Garin. Rustiques et nourrissants, les plats savoyards réchauffent et réconfortent en hiver. Raclette, fondue, crozet, Saint-Génix, Génépi, quels sont les incontournables de la gastronomie savoyarde? Réponse avec Ligori Lecomte. Nous voilà bien, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la santé, bien évidemment, et la prospérité que vous méritez. 2022 sera l'année du consommer mieux grâce à Nous Voilà Bien, votre émission conso du samedi matin sur RTL.
Le caddie était plein à craquer. Je n'arrêtais pas d'en rajouter.
Lionel Mauguin, bonjour.
Bonjour Flavie, bonjour à tous.
Belle année à vous, merci d'être avec nous sur RTL. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs et le numéro de janvier de 60 millions est évidemment en kiosque. Alors, avec vous, on va parler des arnaques. Est-ce que le prix des produits en promo, il est fixé par le fournisseur ou est-ce que les grandes surfaces ont une liberté de tarification?
Alors, en France, c'est le commerçant qui fixe le prix. Hein. Donc, c'est la grande surface qui fixe le prix. Maintenant, le fournisseur peut conseiller des prix. Vous savez que ça se passe de manière assez ardue. Chaque début d'année, il y a des négociations commerciales entre les fournisseurs et les distributeurs. Et c'est à ce moment-là que sont décidés les produits qui seront en promo, toute la planification des campagnes entre fournisseurs et distributeurs.
Mais dites-moi, il y a une saisonnalité, en fait, des promos. On a l'impression qu'il y a des promos toute l'année.
Non seulement il y a des promos toute l'année, mais il y en a parfois plusieurs campagnes dans la même enseigne en même temps. Et donc, on a calculé qu'il y avait, l'an dernier, il y a eu 2500 campagne de promotion dans les grandes surfaces. Ouais. Donc c'est tout le temps. C'est pour ça qu'on a parfois du mal à s'y retrouver.
Est-ce qu'il est fréquent d'observer que les produits annoncés en promotion dans les catalogues ne soient pas en rayon aux dates prévues ou le soient mais juste une journée? Est-ce que ça fait partie aussi des inconvénients qu'on peut rencontrer?
On s'est aperçu avec cette enquête que les dates, les périodes de promotion n'étaient pas respectées. Souvent, presque tout le temps, elles commençaient un ou deux jours avant pour que les équipes des magasins mettent en place les promotions et continuaient un peu après la période officielle. La conséquence, c'est que parfois on arrive en magasin et on est en face d'un rayon vide parce que les précédents clients se sont servis et on est en rupture de stock. Et ça, c'est très ennuyeux. C'est une des principales anomalies qu'on a constatées.
Et est-ce que le prix des produits en promo sur le catalogue, il est toujours respecté aussi en magasin? Parce qu'il paraît qu'il y a des différences parfois.
Si vous voulez, la promo, elle passe en caisse. Là, on a pu le constater. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est le prix de référence, c'est-à-dire le prix barré. Ouais. Et là, nous, on a vérifié en achetant avant les produits, ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas souvent, c'est-à-dire que le prix de référence n'est pas celui qu'on trouve avant dans le magasin. Et je dirais même que parfois, les promotions portent sur des produits qui sont inconnus dans le magasin avant la promotion. Donc, il y a des produits qui arrivent en promotion et qui repartent et qui ne seront plus jamais là et qui n'étaient pas là avant.
Donc, des spéciales promos, quoi, en fait, hein, des produits qui
Exactement.
Sont destinés à ça. Comment est-ce qu'il évolue le prix des articles remisés avant et après la période de promo?
Ça, c'est aussi un constat qu'on a pu faire. Il arrive que la promotion soit une sorte de paravent pour une augmentation de tarifs. Dans plus de 10% des produits qu'on a analysés, eh bien, le prix ressortait plus cher après la promo qu'avant la promo. Et je crains que ça risque d'être le cas dans de nombreux cas dans les semaines qui viennent. Parce que vous savez bien que les prix vont fortement augmenter dans les grandes surfaces.
D'accord, donc ça veut dire que la période de promo est une sorte de tremplin finalement pour le fournisseur, enfin en tout cas pour le vendeur, les grandes surfaces. C'est un tremplin pour pouvoir faire une augmentation de prix plus tard.
On ne peut pas généraliser, mais ça peut arriver. Et on sait bien que parmi les stratégies mises en place pour que les hausses de prix ne se voient le moins possible, il y a celle-ci, hein, qui consiste donc à faire une période de promo avant d'augmenter le prix d'un produit.
Et quand le produit en promo est tout de suite en rupture de stock, ce dont vous parliez il y a un instant, quel recours est-ce que le consommateur a s'il souhaite acheter le produit au prix promis? Si le produit vient après la période de promo.
Oui, il n'y a rien de plus désagréable de venir exprès, parce que plus de la moitié des gens maintenant viennent dans les magasins pour acheter en promo. Et effectivement, c'est inadmissible de se retrouver devant un rayon vide. Donc la législation est très claire, vous pouvez demander ce produit au prix promo Et si le magasin refuse de vous le commander, ou fait la commande mais vous livre pas, eh bien vous pouvez saisir la répression des fraudes qui dressera un procès verbal.
D'accord, ok. Donc il faut aussi que tout le monde tienne sa promesse, quoi. Hein. Il ne faut pas hésiter en tant que consommateur, il ne faut pas hésiter à réclamer finalement ce qu'on nous a promis. Est-ce qu'on fait vraiment des économies en achetant des produits vendus en lot ou en format familial ?
Pas toujours, mais ça je pense que pas mal de consommateurs commencent à le savoir. On s'est aperçu qu'effectivement, si on se réfère au prix au litre ou au kilo, concernant des lots de produits, des lots de café, des lots de dentifrice, on s'est aperçu que certains lots étaient plus chers au kilo ou au litre que le format standard à l'unité. Pareil pour les allégations format familial, format économique. Faites bien attention au prix au kilo. Je rappelle quand même que promotion, ça ne veut pas dire ristourne, ça veut dire mise en avant. Donc il n'y a pas une promesse nécessaire de bonnes affaires. D'ailleurs, on a découvert dans les catalogues qu'il y avait environ 20 à 30% des produits qui n'étaient pas spécialement des bonnes affaires. Ils étaient là simplement parce que c'était une mise en avant, mais le prix n'était pas spécialement intéressant par rapport à avant et après. C'était le prix habituel, simplement il était plus gros que d'habitude.
Et dites-moi, à propos de poids, justement, est-ce que parfois les distributeurs ils réduisent discrètement le poids du produit qui est vendu en promo ?
Ils le réduisent, mais ils peuvent aussi l'augmenter. Un des stratagèmes, ça consiste à proposer une grande marque, par exemple, de céréales, à un format différent que d'habitude. Là, on a trouvé des paquets de céréales de 1 kg, alors que le format standard, c'est plutôt 650. Ouais. On a des formats de 720 aussi. Mais on embrouille bien le consommateur avec tout ça. On a des flacons de mayonnaise ou de ketchup qui font 400 grammes. Des fois, on vous indique que la promo permet d'en acheter 3 pour le prix de 2. Donc, vous retrouvez plus d'un kilo de mayonnaise. Déjà, est-ce que vous avez besoin d'un kilo de mayonnaise ? Puis ensuite, voilà, c'est des formats qui sont plus gros pour brouiller la référence prix.
Évidemment. Lionel Moguin, vous trouvez ça intéressant, les éoliennes ? Vous vous y connaissez, vous, ou pas ?
Oui, bien sûr, c'est pas mon secteur. Hein. Vous avez remarqué que je suis sur l'argent.
Exactement.
Mais évidemment, tout ce qui est énergétique, c'est un des sujets habituels de 60.
Eh bien, c'est également un des sujets ce matin dont nous voilà bien. Et vous aimez la raclette ?
Ah ben moi, je suis de Franche-Comté, donc j'aime bien tout ce qui est fromage.
Eh ben ça veut dire que vous allez rester avec nous jusqu'à la fin.
On peut manger du Morbihan en raclette.
Oui, on l'aura bien compris. Et on en parlera justement tout à l'heure avec Ligori Lecomte. On se retrouve dans un instant pour la suite de Nous voilà bien.
Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.
Au programme de Nous voilà bien ce matin, les éoliennes, la fondue savoyarde, mais également les promos. Et c'est avec vous, Lionel Moguin, que ça se passe. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs, dont le numéro de janvier est actuellement en kiosque. Avec vous, on parle des promos, on apprend énormément de choses pour être des consommateurs plus avertis. Mais quand on parle de promos, on ne parle pas de ristourne. C'est vraiment quelque chose qu'il faut bien intégrer. C'est de la mise en avant d'un produit. Et parfois, derrière cette mise en avant, se cachent quelques arnaques que vous avez réussi à pointer dans votre numéro, donc actuellement en kiosque. Selon votre étude, quelles sont les grandes surfaces où on observe le plus de promos bidons, justement ?
Il n'y a pas une enseigne en particulier qui se distingue. Il y a des anomalies autour des promos dans chaque magasin qu'on a visité. C'est souvent des magasins qui ne sont pas bien tenus. Je voudrais dire quand même qu'actuellement, avec l'épidémie, les équipes dans les magasins sont assez décimées. Oui. Donc on va peut-être faire preuve de mansuétude. Si vous n'avez pas les produits en rayon, on se rend compte, je ne sais pas si c'est votre cas, mais qu'il y a pas mal de rayons vides en ce moment. Il y a beaucoup de personnel absent, donc on ne va pas trop cogner sur les grandes surfaces.
Et non, mais enfin, les promos bidons, elles traversent les temps, les époques et même les époques de Covid. Hein.
Exactement. Donc toutes les enseignes sont concernées, même une enseigne comme Lidl où on a eu beaucoup de surprises. Lidl, c'est pas un spécialiste des grandes marques et quand ils font des promos sur les grandes marques, généralement le prix de référence ne correspond à rien puisque la grande marque était absente avant et absente après.
D'accord. Ok. Donc on est un petit peu paumé. Bon, donc on n'aura pas de nom en tout cas de grandes surfaces dont il faut se méfier. Est-ce qu'on peut se dire quand même qu'il y a certains types de produits qui font l'objet de promos bidons ?
Oui, il y a quand même des produits, par exemple, dont on a l'impression qui sont en promo permanente, au point qu'on se demande si le prix habituel n'est pas celui du prix en promo. Il y a des dentifrices, il y a des cafés.
Des céréales pour les enfants.
Oui, exactement, qui sont en promo permanente. Et on a pu constater dans l'enquête qu'il y a pas mal de produits dont le prix ne bouge pas entre avant, pendant et après la promo. Donc, on a pu établir que c'était un prix habituel.
Est-ce qu'il y a plus de promos sur les produits de grandes marques que sur les produits de marques distributeurs, Lionel ?
Oui, bien sûr, parce que d'abord, quand vous lancez une grande marque, vous êtes obligé de faire de la promo pour qu'elle soit connue. Et puis, encore une fois, c'est une négociation entre le fournisseur et le distributeur. Mmh. Les deux doivent faire des promos parce que c'est une demande très, très importante du consommateur. Et évidemment, il y a beaucoup plus de promos sur les produits de grande marque que sur les MDD, même s'il y a des promos sur les MDD.
Dites-moi, si je suis victime d'une fausse promo, qu'est-ce que je fais en tant que consommateur ?
Déjà, nous envoyer une photo, on reçoit pas mal de témoignages. On va relancer un observatoire des fausses promos, de l'inflation masquée, tout ça.
D'accord, donc on vous les envoie, à vous.
Ouais, ouais, vous pouvez vous connecter sur notre site. Et puis, de toute façon, encore une fois, la répression des fraudes intervient parce que c'est une infraction sur le prix. Hein. Mmh. Quand vous avez un prix de référence qui est bidon, quand vous avez une indisponibilité du produit le premier jour de la promo, c'est réprimé par la loi et donc vous pouvez tout à fait alerter les services. Enfin, vaut mieux négocier avec le magasin avant.
Qu'est-ce qu'on peut obtenir ? L'application de la promo ou on peut obtenir une peine pour le distributeur ?
Si vous saisissez la répression des fraudes, il risque une amende.
D'accord.
Mais pour soi, on doit obtenir le produit au prix promis.
Ok. Pour finir, quel conseil pouvez-vous donner à nos auditeurs pour qu'ils restent des consommateurs avertis en période de promo, c'est-à-dire toute l'année ?
D'abord, ce n'est pas parce que vous voyez une promo qui a l'air alléchante qu'elle l'est forcément. Mm. Méfiez-vous quand même, encore une fois, des 3 produits pour le prix de 2. Est-ce que vous avez vraiment besoin de toute cette marchandise ? Mm. Méfiez-vous des paquets familiaux, des offres économiques, parce qu'au kilo ou au litre, ce n'est pas forcément une bonne affaire par rapport aux produits standards. Mm. Méfiez-vous aussi de ce qui se passe en tête de gondole, parce que des fois, il y a un mixage entre le produit en promo et le produit qui n'est pas en promo. Donc, on croit prendre un produit en promo, puis en caisse, on se rend compte que ça ne passe pas. Parce qu'il y a une différence. Par exemple, une bière en promo de 33 centilitres, vous avez pris la bière en 25 centilitres, elle ne passera pas. Ouais. Et ça, malheureusement, ça arrive qu'il y a des confusions en tête de gondole. Donc, la référence, ça reste le prix au litre et au kilo.
Eh bien, merci beaucoup, Lionel Mauguin, d'avoir accepté notre invitation en ce samedi matin. Je rappelle que vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs. Vous allez rester à notre écoute, car dans un instant, nous allons parler éolienne. Et après, on se fera une petite fondue, d'accord ? Merci, Lionel.
D'accord.
À bientôt sur
merci
RTL.
À vous.
Bonjour, Virginie Garin.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous en ce samedi matin. Vous avez changé de bureau, je dirais. Hein. Vous avez traversé l'étage puisque vous êtes chef avec du service plaisir. Qualité de la vie et spécialiste des questions d'environnement à RTL. J'adore les éoliennes.
C'est bien.
Je trouve ça beau. Vous
moi
savez
aussi.
À quoi ça me fait penser ?
Il y a des gens qui détestent ça, qui trouvent ça très moche, mais moi je trouve ça aérien, c'est très beau, c'est blanc, ça se détache dans la campagne. Après, ceux qui habitent devant, parfois,
ont
des nuisances. Pas tout à fait d'accord.
On va en parler. Moi, ça me rappelle, vous savez, ces fleurs qu'on avait dans les fêtes foraines, sur lesquelles on soufflait, les fleurs en plastique sur lesquelles soufflent les enfants. Et je ne sais pas, c'est un peu comme ça que je vois les éoliennes. Et je suis toujours très heureuse de pouvoir en regarder sur la route. Bon, allez, petit rappel, comment ça fonctionne une éolienne ?
Comme dans vos fêtes foraines d'autrefois, ouais, avec exactement. La force du vent qui fait tourner donc les pales entre 10 et 20 tours par minute. Alors ces pales, elles sont reliées à un alternateur qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Plus on va haut, plus le vent est fort. Une éolienne aujourd'hui mesure 160 mètres.
D'accord. Les éoliennes, elles sont plus implantées où ? Dans quelle région en France ?
Alors il y en a en gros 9000 en France. La moitié de la production est concentrée dans 3 régions. Il y a le Grand Est, les Hauts-de-France, l'Occitanie. 9000 éoliennes sur terre, mais alors pour l'instant en mer, il y en a zéro. Enfin, il y en a une quand même au large du Croisic qui est expérimentale.
Ouais.
Pour le reste, on n'est pas très bon en France. Alors, on a 6 parcs prévus en mer. Le premier est en construction au large de Saint-Nazaire.
Voilà.
Il va y avoir 80 mâts qui devraient fonctionner, si tout va bien, en fin d'année. Mais on est très, très en retard par rapport à nos voisins allemands, britanniques, les Danois, qui, eux, en ont plus de 5000 déjà.
D'accord. Pourquoi remplacer le nucléaire, qui est une énergie décarbonée, par de l'éolien ?
Alors, l'idée n'est pas de remplacer tout le nucléaire par de l'éolien, mais d'avoir un mélange, on appelle ça un mix énergétique avec du vent, du soleil, du bois, les barrages, les déchets pour faire du biogaz. Alors ensuite, le nucléaire, la France n'a pas décidé de l'abandonner, mais de réduire sa part. Donc on veut passer de 75% de notre électricité à la moitié, donc faire monter en charge les énergies renouvelables pour abandonner en revanche, ça c'est important, les énergies carbonées, le charbon, le pétrole. Et pourquoi réduire un peu le nucléaire ? C'est pas une technologie sans risque. Et le risque d'accident dans un pays comme la France, où il y a une très forte densité de population serait catastrophique pour le tourisme ou nos exportations alimentaires. Imaginez aller vendre du vin à des Chinois alors qu'il y a, il y a une catastrophe nucléaire en France, ce serait impossible.
Dites-moi, c'est vrai que les éoliennes, elles produisent qu'une énergie intermittente peu rentable?
Bah, intermittente, oui, parce qu'il faut du vent. Donc il n'y a pas du vent tout le temps. En moyenne, les éoliennes représentent 8% de la production d'électricité, mais on a des jours où c'est zéro. Et puis il y a des jours, comme le 28 décembre dernier, j'ai regardé tout à l'heure, ça peut aller jusqu'à 20%. Et quand on aura des parcs en mer, oui, il y a tout le temps du vent. On pourra compter sur l'éolien tous les jours et ce sera très rentable.
Est-ce que c'est vrai que pour compenser ces pertes, on produit de l'électricité à partir d'énergies fossiles, comme le charbon, le pétrole, ce qui contribue paradoxalement à la diffusion de gaz à effet de serre?
Alors non, en ce moment, si EDF doit relancer effectivement un peu ses centrales à charbon ou à gaz, c'est plutôt parce que les centrales nucléaires sont à l'arrêt. On a 4 réacteurs en ce moment qui ne fonctionnent pas pour vérifier des problèmes de soudure sur des tuyaux. Donc quand il y a du vent, en fait, c'est l'éolien qui compense en partie. Puis quand il n'y en a pas, ce sont les centrales à gaz ou à charbon, effectivement.
Et pourquoi les éoliennes, elles ne tournent plus quand le vent il est trop fort?
Alors au-delà de 90 km/h de vent, effectivement, il y a un dispositif qui stoppe automatiquement le fonctionnement pour des raisons de sécurité, pour ne pas endommager la machine si elle tourne trop vite.
Comprends. Vous parliez tout à l'heure des riverains qui, justement, ont des éoliennes dans leur voisinage, je dirais. Il paraît que les sons provoqués par les éoliennes provoqueraient, justement, chez beaucoup d'entre eux, des maux tels que des nausées, des migraines et tout. Qu'est-ce qu'on a à dire là, sur le sujet?
Alors, il y a eu 2 études scientifiques en France, 60 à l'étranger. Aucune n'a établi un lien entre les infrasons, les bruits ou même l'effet visuel des pales qui tournent et la santé des riverains. L'ANSES, vous savez, l'Agence de sécurité sanitaire, n'a rien trouvé. D'ailleurs, 99% des gens qui habitent à côté des éoliennes vont bien. En revanche, et un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse l'a reconnu récemment, il peut y avoir un effet indirect sur certaines personnes. Un stress de vivre à côté des mâts, une angoisse qui peut entraîner des symptômes. L'Académie de médecine parle même du syndrome des éoliennes. Ce sont des troubles du sommeil, de la fatigue, de la tachycardie, mais ce serait lié à l'angoisse.
Alors on va se retrouver dans un instant car on a encore beaucoup de questions à vous poser. On accueille tout de suite Ligori Lecomte. Bonjour Ligori.
Bonjour Fabie.
Eh ben voilà, merci d'être avec nous dans ce studio. Avec vous, on va parler de cuisine savoyarde.
Ah, de fromage après les fêtes, c'est parfait pour...
Ça vous plaît,
Virginie. Je suis au savoyarde, donc vive
en plus.
Donc tout va bien, on va parler fromage. Ça sent bon dans ce studio, on se retrouve dans un instant pour la suite de Nous Voilà Bien.
Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien. Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien.
Dans ce studio et jusqu'à 10h dans Nous Voilà Bien, Ligori Lecomte qui est chef pour cuisineaz.com. Bonjour Ligori,
rebonjour.
Est-ce que vous êtes venu avec de la raclette? C'est la raison pour laquelle on vous a invité dans ce studio
non,
ce matin.
Je vous avoue que j'ai eu peur d'être jugé dans le train, dans le métro, mais venez la prendre à
mais
la maison, ça sera parfait.
Mais pourquoi donc? Ça sent bon le fromage.
Virginie Garin, j'avais organisé une fondue savoyarde à la rue Bayard, quand on était encore rue Bayard,
ouais,
au 6e étage,
et ben
on la
Paris.
Sentait jusqu'au rez-de-chaussée. Donc
mais
faut
oui,
faire
mais...
attention quand même.
Mais je me demande si j'étais pas dans les parages. Et effectivement, c'est très convivial, voilà, la cuisine savoyarde, et on va en parler avec vous, Ligori. Et vous aurez le droit de rester, Virginie Garin, mais après notre conversation sur les éoliennes avec vous. Vous nous disiez il y a un instant qu'il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent effectivement que vivre à côté d'une éolienne nous condamne à des vomissements, des maux de tête, enfin, tous ces maux dont se plaignent certains riverains, mais que ce serait plutôt de l'angoisse, et on parle même du syndrome des éoliennes. Est-ce que je peux m'opposer à l'installation d'une éolienne près de chez moi?
Mais oui, vous avez le droit. Alors déjà, au début d'un projet, il y a une enquête d'utilité publique, donc il existe un droit de recours. Tout seul, bon, c'est un peu compliqué.
Oui.
Ce sont souvent des associations qui se créent. Ensuite, il y a des règles. On construit pas n'importe où des éoliennes. Alors, c'est interdit dans les parcs nationaux, dans les zones militaires, près des monuments historiques.
Oui,
il faut que ce soit à plus de 500 mètres des habitations. Alors, en gros, 2/3 des projets sont attaqués, mais 90% des plaintes sont rejetées.
D'accord. On dit que les éoliennes, elles augmentent également la mortalité des oiseaux et des chauves-souris qui sont percutés, broyés, en fait, par les pales.
Malheureusement,
mouvement.
Oui. Hein,
ça,
il y a
vrai.
Des collisions. Alors, la Ligue de protection des oiseaux a fait une étude il y a quelques années. Entre 0,3 et 18 oiseaux sont tués chaque année par des éoliennes. Vous voyez, c'est précis. Alors, surtout des oiseaux
par
migrateurs.
Par éoliennes ou par toutes les éoliennes?
Parce que les
sur
oiseaux
le parc.
Passent au milieu des pales.
Oui, mais c'est par éoliennes.
Ah, par éoliennes, oui,
d'accord,
tout à fait.
D'accord, très bien.
Okay. Donc, c'est pourquoi les parcs ne doivent pas être installés dans les couloirs de migration.
Oui,
certains projets ont été retoqués à cause de ça. Et la LPO demande qu'elles soient aussi interdites dans les sites Natura 2000. C'est
d'accord.
Un sujet important.
Évidemment. Est-ce que les champs électromagnétiques des éoliennes augmentent la mortalité des vaches à proximité?
Alors, non, il y a d'ailleurs une étude très très récente de l'ANSES, justement, l'Agence de sécurité sanitaire, qui date du mois dernier. Il y a eu deux témoignages d'agriculteurs qui trouvaient leurs vaches en petite forme. Les chercheurs sont allés observer les animaux sous toutes les coutures. Le lien est hautement improbable, ont-ils conclu. Il y a plein de troupeaux à côté de parcs qui vont très bien. Mais bon, ils proposent quand même de poursuivre leurs recherches sur un plus grand nombre de fermes.
Ça dure combien de temps une éolienne ?
Ça peut aller jusqu'à 25 ans, en moyenne. Là, c'est vrai que les technologies deviennent rapidement obsolètes. Donc, ils préfèrent changer d'éoliennes pour avoir des éoliennes dernier cri qui vont produire, par exemple, 2 à 3 fois plus d'électricité. Et puis après, il faut les démonter.
Qu'est-ce que ça devient ?
Soit on peut les revendre d'occasion. Il y a un marché de l'occasion, notamment en Espagne, de l'éolienne. Et puis, soit il faut les recycler. Alors, vous avez peut-être vu, Flavie, des images de cimetières d'éoliennes aux États-Unis. Eh bien, en Europe, ce n'est pas possible. La loi oblige les opérateurs à recycler au moins 90% de l'éolienne.
Racontez-nous, ça se passe comment aux États-Unis?
Ils mettent tout ça dans un coin. Ils les laissent pourrir dans un coin.
Écolo.
Chez nous, on demande aux opérateurs de les recycler.
Très bien. Est-ce qu'on peut retirer les 600 tonnes de béton coulées dans le sol qui servent à maintenir les mâts de 150 mètres de haut des éoliennes? Quand on enlève une éolienne,
on doit, c'est la règle. Tout le béton doit être excavé. Il est ensuite transformé en gravats qui est utilisé comme remblai dans les chantiers. Le mât et la nacelle sont en acier et là, ils sont fondus et recyclés. Alors, le seul problème, ce sont les pales qui sont un mélange de résine et de fibres de verre qui, pour l'instant, ne se recyclent pas. La filière y travaille. Alors, pour l'instant, en France, jusqu'à présent, il y a peu d'éoliennes en fin de vie parce que les parcs, ils ont moins de 20 ans.
Ils sont jeunes.
Bon, après, il va falloir trouver des solutions. Et il y a un constructeur là qui vient de proposer une nouvelle pale recyclable. Donc, ça, c'est tout à fait nouveau.
Très bien, on va suivre le dossier de près. L'énergie éolienne, elle est renouvelable et elle est gratuite puisque c'est le vent. Est-ce que c'est financièrement intéressant d'avoir son éolienne dans son jardin? Je pourrais en avoir une?
Oui, vous pouvez absolument. Ça s'appelle l'éolienne domestique. Alors, elles sont toutes petites, moins de 50 mètres. En dessous de 12 mètres, vous n'avez pas besoin de permis de construire. Plus haut, il en faut un. Il faut faire une étude avant, évidemment, pour savoir s'il y a du vent chez vous. La distance avec votre voisin doit être égale à au moins la moitié de la hauteur du mât. Vous voyez, c'est précis. En gros, on peut dire qu'une éolienne de 15 000 euros dans un site avec du vent permet de fournir la moitié de l'électricité pour une famille de 4 personnes.
Il ne faut pas se louper,
il faut bien faire une étude avant. Pas de vent, vous laissez tomber.
Très bien. Oui, j'imagine. Merci beaucoup pour tous vos conseils, Virginie. Vous restez avec nous pour parler fromage ou pas?
Avec plaisir.
Génial. Allez, tout de suite, place justement à la dame de Haute-Savoie.
Je prendrai ma guitare. S'il est encore là, j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie.
Et notre dame de Haute-Savoie, c'est Ligori Lecomte, avec ce bon prénom italien en plus, qui nous vient de Lille. Tout est logique.
Exactement. On voyage.
Exactement. Mais en plus, vous voyagez sans fromage, alors que Virginie Garin et moi attendions le fromage en ce samedi matin. Bon, alors, vous les connaissez, Virginie, les spécialités fromagères?
Évidemment, la raclette, la fondue, les dio, vin blanc, et avec des bons vins. Par exemple, la fameuse mondeuse. Le chimien bergeron en blanc.
Bon, on va commencer avec les fromages. Quels sont les fromages pour cuisiner des spécialités savoyardes, Ligori Lecomte?
Alors, il y en a plein. On peut citer le Beaufort, qui est lui, on l'appelle le prince des gruyères. Il a un petit côté un peu floral, fruité, l'abondance qui lui va plutôt chercher un petit côté noisette. Puis le chouchou de l'hiver, c'est le reblochon. On en met partout, notamment dans la tartiflette, qui est aussi onctueux, fondant et parfumé. Donc que ce soit en tartiflette ou sur un plateau, en général, ça marche bien.
Alors je ne sais pas pour vous, Virginie, mais moi, il y a des fromages savoyards. Par exemple, vous me parlez là du le reblochon, je le retrouve. Mais il y a des fromages qui ne servent finalement, moi je trouve, qu'à la fondue. Enfin, on les retrouve pas systématiquement tous sur un plateau, si, Virginie?
Si, les fromages AOP. Ce qu'on appelait avant les AOC, comme l'abondance, le Beaufort, le reblochon, le chevretin, ça, ce sont la tome de Savoie aussi. Là, ce sont des fromages qui vont absolument sur votre plateau. Après, pour faire la raclette, la fondue, chacun a ses recettes.
On met trois fromages
et on peut mettre un peu de vacherin suisse aussi, c'est bon. Vous pouvez mettre de l'abondance, vous pouvez mettre du comté.
Dites donc.
Mais je vais vous laisser, moi.
Vous restez là. Et ils sont tous au lait cru, ces fromages dont vous nous parlez, Ligori Lecomte?
Alors, ils peuvent ne pas être au lait cru, comme la tome des Beaux, la raclette de Savoie, mais il faut savoir que le lait cru, c'est non chauffé. C'est-à-dire que la flore bactérienne, elle va être intacte et ça va garder en fait toutes les infos que le lait peut donner. Et forcément, en termes de saveur, ça aura plus de caractère.
C'est comme ça que ça va sentir l'animal, voilà. Ça va sentir les tables.
La richesse aromatique et tout autre, ça c'est sûr.
D'accord. Il y a aussi des fromages de chèvre, on l'entendait à travers Virginie.
Oui, Virginie vient de le dire, le chevrotin, il y a le persillé des Aravis aussi, c'est des fromages de chèvre de caractère, donc il y en a aussi.
D'accord. Pour la raclette, on utilise exclusivement la raclette de Savoie ? Est-ce qu'on est chauvin dans cette histoire ?
Alors, il va y avoir les deux côtés. Il va y avoir des chauvins qui vont ne voir que le fromage à raclette, au lait cru pour le goût. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut se laisser à quelques fantaisies. Tout à l'heure, on parlait aussi du Morbier. C'est tout à fait possible. Il y a d'autres fromages sans problème qui s'y prêtent totalement.
Dans un instant, vous allez nous donner une recette, justement. On va se retrouver sur l'antenne d'RTL pour la suite de Nous voilà bien.
Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, Nous voilà bien.
Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.
Nous voilà bien, c'est jusqu'à 10h à la rédaction d'RTL. Il est une gourmande qui est Virginie Gamin qui reste avec nous justement pour parler des spécialités savoyardes avec Ligori Lecomte. Ligori, on poursuit avec vous. C'est quoi l'histoire de la raclette d'ailleurs ? Ça vient d'où ça ?
Alors la raclette, c'est très simple. En fait, au 12e siècle, il y a un berger qui a planté sa petite tente avec ses bêtes. Et puis il faut bien manger à un moment donné. Donc il a allumé un feu pour se réchauffer. Et manque de bol, il avait laissé une meule de fromage trop près du feu. Ça a commencé à fondre, donc pour ne pas le gâcher, il s'est dit on va vite le manger. Et puis c'est comme ça qu'on a créé la raclette, avec des demi-meules près d'une source de chaleur, vous voyez. Et puis ça a été démocratisé plutôt dans les années 80 par une grosse marque d'électroménager qui nous permet maintenant de mettre des petits morceaux de fromage aussi.
De faire nous-mêmes notre petite raclette.
On n'est pas forcé d'avoir ce gros appareil pour une demi-meule. Maintenant, tout le monde a un petit appareil à raclette chez lui. C'est facile à sortir, facile à faire, ça plaît à tout le monde.
Vous aimez bien, Virginie, les raclettes aromatisées, vous ?
Aromatisé, non, moi j'aime bien quand c'est juste le fromage pur.
Ouais, parce que je pense à ça, il y a des fromages à raclette qui sont un peu aromatisés. Là, on voit toujours des raclettes à la truffe, on voit des raclettes.
Moi, il y en a un que j'adore, c'est le braisin. Qui est fumé, c'est vraiment un que j'adore. Le fromage à raclette poivrée, c'est aussi quelque chose que j'adore. Et puis là, pour sortir un peu des sentiers battus, moi c'est un petit Moliterno truffé. Donc, c'est un fromage de brebis qui est truffé. Et donc pour une raclette un peu différente, premium, je trouve.
On a une sceptique là.
C'est plutôt pas mal.
On a une sceptique.
Moi, je suis plus fondue que raclette en fait, c'est pour ça.
On en parlera un petit peu plus tard. Comment est-ce qu'on conserve ce fromage à raclette si on n'a pas tout mangé ?
Alors ça se congèle très bien.
Ah oui ?
Une future raclette. En général, quand on en fait une, quelques semaines après, on garde l'appareil pas loin, puis on en refait une autre. Mais sinon, moi, ce que je fais, c'est que il reste toujours un peu de fromage, un peu de jambon cru ou jambon blanc. Vous faites tout simplement une quiche. Vous allez mettre ce fromage là-dedans, coupé en petits dés. Ça marche très très bien. Ça permet de ne rien jeter, de même pas le congeler. Donc voilà, petite astuce que je peux vous donner.
Moi, j'essaie de faire une petite tartiflette moi le lendemain.
Aussi, on peut.
Qu'on y arrive à la tartiflette. C'est quoi la tartiflette ?
Une fois que vous avez fait une petite raclette en entrée, bien sûr, on va passer à la tartiflette.
C'est tellement normal, c'est tellement détox ce mois de janvier, dans Nous voilà bien, tout est logique.
Alors là, normalement, on utilise plutôt le reblochon avec une pastille verte. Pastille verte, en fait, c'est un reblochon fermier. Okay. C'est une pastille rouge, c'est plusieurs laits de plusieurs fermes différentes. Donc si vous voulez vraiment un reblochon de top qualité, ce sera la petite pastille verte.
D'accord.
Mes conseils que je peux vous donner, sous l'œil bienveillant de Virginie, c'est de faire dorer vos lardons et vos oignons dans une poêle tranquillement. Ensuite, vous allez déglacer avec un vin blanc de Savoie, roussette de Savoie ou de la Premont. Comme ça, vous allez déglacer vraiment tous les sucs qui sont dans votre poêle. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'ajoute un petit peu de crème. Alors là, peut-être que c'est un sacrilège, mais j'ajoute un petit peu de reblochon dans ma crème et je laisse infuser tout ça. Comme ça, toute la crème est aussi infusée au reblochon.
D'accord.
Et avec le reste, forcément, je le coupe en deux et je le mets sur mes pommes de terre qui sont cuites, tous mes oignons et lardons dorés et mon reblochon pour former la croûte au four une vingtaine de minutes.
Donc, si je récapitule, on commence d'abord par remplir un plat à gratin de pommes de terre.
Alors moi, je les cuis déjà. Voilà,
on cuit les pommes de terre, on fait des étages de patates.
Voilà, tout à fait.
Et après, on y rajoute les lardons et le fromage.
Lardons, oignons, avec la crème, le fromage, et on remet tout ça à gratiner.
Ça vient d'où la tartiflette ? C'est aussi un mec qui s'est trompé ou...
Alors non, là, c'est un peu moins sexiste. En fait, c'est la confrérie du reblochon. Ça peut faire sourire comme nom, qui a inventé cette recette pour augmenter en fait le nombre et la vente de reblochon. Donc c'est plutôt rigolo. Puis après, ça a été repris dans tous les restaurants en Savoie.
Donc c'est
dans
récent les en fait.
Tout à fait, c'est hyper
la
récent.
La tartiflette, c'est pas un vieux plat comme. Oui, Virginie.
Vous connaissez la croziflette ?
Alors, c'est avec des crozets.
Voilà, exactement. Ces petites pâtes carrées savoyardes, on remplace les pommes de terre par des pâtes, c'est très
et
bon.
Et ça, c'est bien. Oui, ça doit être bon. Mais enfin, là, ça tient au corps. Il faut faire des descentes de luge après, là, parce que c'est quand même pas évident, quoi. Allez, on passe à la fondue pour Virginie et pour ceux qui nous écoutent. Moi, j'adore ça.
Alors, pour la fondue, là, moi, je vous conseille, c'est trois fromages, de l'emmental ou du gruyère suisse, un peu plus de puissance. J'aime bien mettre du comté et du beaufort, on en parlait tout à l'heure. J'aime bien mettre voilà, un mélange équivalent de ces trois fromages-là.
Dans un caquelon.
Alors, si vous le râpez, c'est encore mieux, parce que ça va fondre plus vite, hein, vous allez un petit peu moins galérer. Ensuite, on rajoute du vin blanc, entre un tiers et la moitié maximum de la quantité de fromage.
D'accord. Oui, donc c'est pas tout pareil, hein. C'est pas la même dose de vin blanc.
Non, non, non. Et comme ça, vous en gardez un petit peu pour boire pendant la recette, pour les préparatifs. Alors, il y a un truc qui se fait. Alors, ail ou pas ail, un peu de poivre, ça c'est obligatoire, mais un petit peu de kirsch. Il paraît que ça révèle un peu plus le goût des fromages. Oui. Et puis, ça la rend un peu plus digeste aussi, vous voyez. Avec une petite eau de vie dedans, ça permet de digérer un peu mieux les fromages qu'on va emmagasiner dans la recette.
Certains même trempent le pain dans un petit verre de kirsch avant de le mettre dans le fromage.
Oh, bah, dis donc, chez vous.
Dès le samedi matin. C'est...
La famille de Virginie Garin que l'on salue évidemment. Est-ce qu'on ajoute de la maïzena?
Alors c'est pas vraiment la recette d'origine, mais on peut en fait pour avoir un mélange un peu plus homogène. C'est quelque chose qui se fait vraiment de plus en plus. Ouais.
On parlait du pain. Est-ce qu'il faut qu'il soit rassis?
Alors moi je conseille de prendre du pain rassis, déjà il y a ce petit côté zéro déchet, et puis vous êtes sûr de ne pas finir toute nue dans l'escalier, comme on dit, si vous perdez le morceau de pain, vous voyez, avoir un gage.
C'est pour ça que je suis à poil à chaque fois, quoi. C'est quand même un truc de dingue, tout ça c'est bizarre. Bon, alors ça ce sont les conseils pour la fondue. Spécialité savoyarde salée, qu'est-ce qu'il nous reste? On parlait des crozets tout à l'heure, donc la croziflette, ce sont des petites pâtes carrées.
Avec de la farine de blé ou farine de blé et sarrasin, pour ceux qui le rient un petit peu,
bon,
donc croziflette, ça se fait très très bien. Il y a les rioutes aussi.
Alors, qu'est-ce que c'est que les rioutes?
Alors, c'est un biscuit sec à base de pâte à pain et anisé en forme d'anneau. Et en fait, c'est tellement sec que généralement, ils le trempent aussi même un peu dans le vin rouge pour le réimbiber et manger.
Ok, logique.
Pour rester un peu dans la même ambiance, vous voyez.
D'accord. Et les fritures de perchaux, c'est quoi? Ça, je connais pas.
Alors, ça, c'est les petites perches en fait qui sont tout simplement vidées, farinées. Passer dans un bain d'huile et puis c'est un délice.
Alors, j'espère que les Savoyards qui nous écoutent n'en prendront pas ombrage, mais en fait, on mange tellement bien d'abord. Donc, est-ce qu'il y a des desserts Savoyards? Est-ce qu'on a inventé le dessert en Savoie?
Il y en a aussi pour ceux qui trouvent encore une petite place.
C'est quand même roboratif tout ça.
Mais oui, après, il y en a. Il y a le fameux gâteau de Savoie qui est très très connu et qui est un gâteau très arien. Pourquoi? Parce qu'en fait, les blancs sont montés.
Ouais, donc
blanc
léger,
en neige
quoi.
Et meringue. Voilà, on a ce côté moelleux et puis qui peut plaire en fin de repas, même après une tartiflette. Vous avez la tarte aux myrtilles qui est vraiment le gâteau traditionnel dans toutes les auberges. Pourquoi? Parce que les myrtilles, on les retrouve en montagne, donc c'est plutôt facile à faire aussi. Puis pour l'histoire de mettre un petit peu de fruits après tout ce fromage. Hein. Vous avez le Saint-Génie aussi qui est une brioche. Si vous aimez la brioche et les pralines roses, et ben là, c'est le dessert rassemble les deux. Donc voilà, c'est parfait aussi.
Et les bracelets. Les bracelets, c'est des gâteaux qui ressemblent à des cigarettes, grandes cigarettes. Et dedans, il y a de la crème et de la crème.
et qu'est-ce qu'on boit avec ça alors justement?
Ah bon, on peut en boire des choses là. Pour l'instant, on a déjà fait le tour de la cave, mais vous avez des liqueurs qui sont un peu spécifiques, comme les liqueurs de montagne avec des fleurs, qui est la liqueur des Aravis, par exemple. On a aussi le Genépi qui est très très connu. On a ce goût vraiment fleur de montagne, et alors on le consomme plutôt en digestif, mais il n'y a pas de contre-indication pour ceux qui aiment ce petit côté sucré pour le prendre un petit peu avant à l'apéritif avec modération.
Toujours.
Toujours.
Bon, et la grolle, c'est quoi?
On pourrait appeler ça le café Bistoul dans ma région. En fait, c'est un mélange de café et d'eau de vie, un peu le café cognac aussi, qu'on peut mettre dans un récipient en bois, en fait, qui a plusieurs sorties.
C'est pas très Covid.
Alors, j'allais dire, c'est pas du tout Covid.
C'est clair, mais
voilà, après, c'est quelque chose que se passaient les bergers. Voilà, une sorte de coupe de l'amitié. On se passe ça.
Qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre une piste ou on va faire la sieste? Virginie, qu'est-ce que vous faites?
Alors, il vaut mieux faire dans l'ordre. Donc, on peut descendre une piste et puis après, on mange, on boit et on termine. Par la sieste.
Très bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce samedi matin, Virginie Garin. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire la sieste directe, vous, Ligon Lecomte?
Oui, parce que de toute façon, je ne sais pas ce qu'il y a, donc je vais aller manger et puis boire un petit coup avec tous ces fromages.
Merci beaucoup, Ligon Lecomte. Je rappelle qu'on retrouve vos recettes sur le site cuisineaz.com. À bientôt, Ligon, pour des recettes gourmandes. Merci, Virginie Garin. Nous voilà bien, s'achève, mais vous pouvez réécouter l'émission sur l'appli RTL et sur tous les sites partenaires. Moi, je vous retrouve dès lundi à 20h sur RTL pour Jour J. Jour J, c'est passionnant, c'est le magazine qui s'intéresse aux grands événements qui ont jalonné notre histoire collective. À la semaine prochaine, dès 9h15, pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien. Juste après les infos, c'est RTL qui continue de vous régaler. Prenez bien soin de vous, passez un excellent week-end. À l'écoute d'RTL, bien sûr, je vous embrasse.
Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien.